Georges Icoud, le cycle batibulaire, le tribunal au chauffoir. À Monsieur Oscar Wilde, au poète et au martyr païen, torturé au nom de la justice et de la vertu protestante. Jacques Lavaine, le loyal bougre, pensionnaire périodique du pénitencier, venait d'y reprendre ses quartiers d'hiver. Pour la 50e fois, les portes du dépôt s'étaient refermées sur lui. À cette occasion, les camarades vieux chevaux de retour ou vagabonds en fleurs et novices lui donnaient une petite fête au chauffoir à l'heure de la récréation, oui, une vraie fête d'anniversaire intime et attendrie comme des noces d'or. Quand j'appelle vieux chevaux de retour une partie des pensionnaires de cet asile, ce n'est qu'une manière de parler, car beaucoup de récidivistes, comptant comme ce jubilaire de l'écrou une série de flétrissures juridiques, dépassaient à peine la 30e année. S'il y en avait d'aussi avariés et débiles que des fêtards de la haute, par contre ils s'en campaient d'autres attestant la salubrité de cette vie de rentier sans rente et de travailleurs de besognes fallacieuses, des métiers chimériques. Il emportait même en nombre dans cette assemblée sur les marmiteux et les valétudinaires ces vigoureux et florissants garçons de génie, amis de la sainte paresse ou des passe-temps inutiles, mais ingénieux, goulus ou friands, mangeurs de fruits défendus, pour la plupart très respectueux toutefois des faiblesses et des candeurs, incapables de flétrir une fleur, de ravir un nid ou d'abuser d'un enfant, poètes en action, humanité de luxe, ne prenant conseil que de leur conscience et se résignant pour l'amour des beaux gestes et des affirmations catégoriques, au trac, au ligotage, aux mises à l'ombre, parfois au lent supplice. Toutes les irrégularités voisinaient et fraternisaient cet après-midi dans le même chauffoir, l'ancienne chapelle du château féodal. Les fenêtres murées jusqu'à hauteur de l'ogive y entretenaient à peine une avare lumière de crypte. Il n'était que 4 heures et l'éclairon des soldats n'avait pas encore annoncé l'approche du dernier convoi quotidien de pieds poudreux. Mais novembre consommait son œuvre tuberculaire. Il bruinait et les aiguilles d'une pluie froide arrachaient comme des gouttelettes de sang roux au jour prêt à défaillir. Toutefois, il faisait encore plus gris et plus humide au-dedans, malgré le rougeoiement d'un poêle de fonte qui parodiait, au milieu des halles nées sourdes, des évaporations de sueur et des nuages d'âcre fumée, le morose coucher du soleil sanguinolent derrière les squelettes de la futaie, parmi les brouillards et les frimas. À la faveur de ce clair-obscur, et pour peu que le spectateur se fût habitué à cette atmosphère aussi irritante pour sa gorge que pour ses yeux, il aurait peu à peu démêlé une trentaine de silhouettes humaines, uniformément vêtues d'une livrée et dont la couleur s'assortissait à la gamme fauve et grisâtre de la saison et du milieu. Jacques Lavaine avait pris place avec ses pairs sur un des 4 bancs disposés autour du poêle. Depuis quelque temps, ces anciens faisaient assaut de cynisme et lançaient, entre 2 bouffées ou 2 jets de salive, quelque aphorisme subversif ou quelque énorme gravelure. Derrière, en plusieurs cercles concentriques, se pressaient les derniers venus et les novices, les baies jaunes de cette université de la joie et du libre vouloir, gamins à l'âme puérile, quoique de chair perverse, espiègles comme des chats et parfois irritables, et torves comme des bulldogs. Les uns, insidieux et câlins, passaient le bras autour du cou d'un camarade ou, sous prétexte de se rapprocher de leur maître, de ne rien perdre de la bonne parole, ils reposaient le menton sur son épaule, et des joues à peine duvetées se frôlaient, et des chuchotements, des trémoussades, des risettes, aggravaient encore d'un commentaire chatouilleur les maximes flattant ses oreilles, tendues avec trop de complaisance. La plupart de ces mauvais garçons avaient la pipe aux dents. Lorsqu'ils aspiraient la fumée, le tabac embrasé illuminait ces visages glabres et ambigus d'une rougeur fugace, grâce à laquelle le profane, introduit dans ce repaire légal, dans cette caverne de tolérance, aurait été frappé par la beauté navrante de ses yeux, le pli philosophique de ses bouches, le peu de stigmates affligeant ses figures dites patibulaires. Sans doute, même en cette chagrine vesprée d'automne, il devait faire plus simple, plus normal au dehors, mais quiconque eut l'âme amortumée ou aveulie par l'existence symétrique et la platitude des gestes de la vie permise, se fut compli quelques instants cette réunion de tempéraments effrénés et d'originaux sans vergogne, et eut savouré, à part lui et en cachette, les rites de cette franc-maçonnerie, et un peu en dehors, mais si spontanée et si cordiale. Le bourgeois, pétri de préjugés et de scrupules, eût même été déconcerté, sinon converti par la solidarité régnant dans ce camp retranché des irréductibles irréfractaires. Il fut vibré, il eût vibré malgré lui à cette cruelle harmonie, assortissant tous ces disparates de la vie codifiée, une harmonie corrosive, chromatique, à outrance, autrement émouvante que les orthodoxes eût dit sont psalmodiés par la société, où tous les éléments du cœur soutiennent la même note d'ordre, quoique dans différents registres, d'octave à octave, ou grêle ou austère, ronflante et prudomesque, chez le Richard, bonasse et pleurnicheuse, chez le débonnaire ilote. En ce lazaret des démonteurs de la patraque sociale, cette pactisation des plaies eût troublé le plus égoïste partisan du règne des repus, et peut-être eût-il perçu quelques présages de l'amour suprême, en voyant toutes ces blessures se baiser mutuellement comme des lèvres. C'était donc fête au chauffoir. Avec les méros du supplément de salaire obtenu en turbinant sur les raies du moulin horloge, les camarades avaient trinqué l'après-midi à la santé du héros, en buvant la tisane vaguement houblonnée, la diurétique cervoise débitée à la cantine. Puis ils avaient présenté au jubilaire une pipe décorative, fleurie comme la casquette d'un tireur au sort, que tous se disputaient l'honneur de bourrer et de rallumer chaque fois que le donateur attendrit en secouait le culot. Comme l'assaut des énormités, qui avait longtemps diverti la galerie, commençait à languir. « Quel dommage !» proféra l'un des argoulets assis au banc d'honneur près du feu. « Que cela babande, doit précisément en liberté. Il nous aurait improvisé quelques couplets en l'honneur de Jacques Lavenne. » Et il fredonna en commençant à bâiller. « Mais la neige est si noire que les corbeaux sont blancs. »« Oh, bien mieux !» dit un autre en appliquant familièrement la main sur la bouche du bailleur. « Employons encore les 2 heures qui nous restent avant le coucher à raconter chacun la mésaventure qui nous a brouillés pour toujours avec les familiaux, les patriotards et les cagots. »« Eh oui !» ratifia le premier motionnaire. « Joue au tribunal, et c'est toi qui nous jugeras, toi, Lavenne !» Il va sans dire que ce sobriquet de Lavenne avait été donné par ironie au fieffé traîneur de route. Son histoire était celle d'un déclassé et d'un réfractaire par principe et par conviction. Avantagé à sa naissance, sous tous les rapports matériels, au spectacle du misérable lot réservé à tant d'êtres qui les valaient bien lui et sa famille, il avait pris en dégoût sa situation privilégiée et éprouvé comme une nostalgie de déchéance. Intelligent, après avoir appris toutes choses qui sont dans les livres et pratiqué tour à tour comme avocat, ingénieur et médecin, il s'avisa de devenir universel par l'altruisme, de vivre plus encore par le cœur que par la science et l'esprit. Et coup sur coup, en possession de sa fortune, il l'employa à doter des hospices, à rendre des pêcheurs propriétaires de leurs barques, à adopter, à choyer des enfants ramassés dans les rues. Naturellement, ses héritiers, qui n'auraient frustré pourtant que d'un superflu minime, conçurent d'âpres inquiétudes devant ses dispendieuses charités. Sa famille lui imposa d'abord un conseil judiciaire, puis, pour plus de sûreté, elle l'enferma dans une maison de fous. Pendant sa collocation, ses dignes sont sanguins, gérèrent si prodigalement sa fortune qu'il ne lui resta bientôt plus un sou. N'ayant plus aucun intérêt à le séquestrer, à le sachant trop indulgent pour leur demander des comptes, les voleurs le firent relâcher. Loin de leur en vouloir, le bonhomme se réjouit presque de l'occasion qui lui ménageait de descendre en égal auprès de ceux qu'il ne pouvait plus aider et protéger que de son amour. Depuis, il vagabonda, apostolique, prêchant l'amour, la vie libre, la tolérance, la compréhension. Et il prédisait des temps nouveaux, sans loi, sans gendarmes, sans soldats et sans prêtres, sans tous ces obstacles impies apportés à l'expansion naturelle et particulière de chaque être. La foule riait au discours de ce maniaque. Les sages hochaient la tête, les enfants lui jetaient des pierres, même les humbles avec lesquels il s'humiliait en se faisant plus dénués qu'eux-mêmes, doutaient de sa parole évangélique et souriaient avec compassion. Et ce n'était vraiment que tout au bas, chez la populace, chez les prétendus vauriens, qu'il se faisait comprendre et qu'il recrutait des prosélytes. Cela lui avait appris à vivre de peu et souvent de rien, à se loger dans les faux abriques, sous les arches des ponts, et à défaut de tout autre asile, à leur suite, il échouait au seuil du pénitencier. Tous les truands savaient son histoire. Aussi le dispensèrent-ils de la redire aujourd'hui et l'avaient-ils appelé à écouter et à juger les autres. Le premier qui parla était un forgeron solide et noueux, mais couturé de noires cicatrices et de traces d'escarres à la façon de ces chaînes impérissables qui ont plusieurs fois tenté d'affronter la foudre. « Jusqu'à l'âge de 25 ans, dit-il, je pris au sérieux leurs histoires de code et de catéchisme. Je croyais en la justice divine et j'observais la loi, prétendument humaine. En toute occasion, j'implorais le bon Dieu, j'espérais son paradis et arrosant mon pain de sueur et parfois de larmes, je martelais en conscience. La nuit très civique et souvent ivre avec ma femme, je travaillais pour la population de la patrie. Insensé. En une seconde de plaisir, je créais des parias et des misérables, sans perspective d'un avenir meilleur. J'infligeais à d'autres une vie qui serait peut-être encore plus précaire que la mienne. Les bons apôtres m'y encourageaient en me faisant entrevoir que mon septième garçon serait la filleule d'un roi. En attendant, tous les ans, je ne gagnais que le même salaire. La multiplication des pains m'accompagnait pas celle des enfants. Parfois, le chômage et la maladie s'alliaient pour me punir de mon imprévoyance. Les jours où la faim me taquinait, je tapais encore plus fort sur l'enclume. Mais s'il y avait eu que moi à devoir jeûner, au cœur de ces hivers plus froids et plus implacables que l'âme du mauvais riche, la ménagère exténuée de privation tomba malade. Les enfants s'alitèrent à leur tour. Je me roidissais et battis plus rageusement encore du marteau pour ne pas entendre leurs gémissements, puis leurs râles. Et en effet, bientôt, il suivit d'un silence complet dans mon galetas et dans la forge. J'étais seul. Alors, je passais mon outil à travers la vitrine d'un changeur et j'en assommais une sébile ruisselante de pièces d'or. Les juges ne m'infligèrent que 5 mois de prison. Des liseurs de journaux pleurèrent au récit de mes épreuves. Ça n'empêche pas que lorsque je fus élargi, personne n'osa faire accueil et donner du travail aux repris de justice. Les honnêtes ouvriers, ceux de ma caste, se détournaient de moi, et l'esprit de concurrence se greffant sur leur stupide sentiment d'honneur, d'aucuns dénoncèrent même ma prétendue tare à celui qui l'employait et le sommèrent de me congédier. Ce qu'il fit. Alors du travail, je n'en trouve plus que dans les prisons. Au dehors, je vis seul, je rôde, je mendie. Et si ça ne suffit pas pour me permettre de subsister, je vole. Je me réjouis de la disparition des miens. Il ne s'ouvre plus. La mort a défait mon œuvre mauvaise. Mes filles ne deviendront point des prostituées, ni mes fils des soldats. Un grondement approbateur courut dans l'assemblée. Tu tireras une sage conclusion de ton ilotisme, lui dit le juge. Avant les temps de meilleurs, les misérables devraient s'abstenir de créer de la chair à canon et de la viande à lupanard. Allez, à ton tour, hé, toi, le maçon. Celui-ci, un blondin mafflu et rablé, préluda son récit par ce professionnel hochement d'épaule de l'homme qui a longtemps charrié sur les omoplates le panier aux briques et l'oiseau surchargé de mortier. Bien voici. En me dandinant souvent une fleur ou une chanson à la bouche, je gâchais gaiement le plâtre au village natal, me réjouissant des blanches vapeurs de la chaux, presque autant que l'enfant de cœur des nuages parfumés qu'il arrache aux encensoirs. Puis l'apprenti, je passais compagnon. Oh, je me rappelle certaines réflexions du clocher. À califourchant sur le coq et narguant les vertiges, je regardais sous mes pieds les toits rouges et les chaumes, les drèves et les champs. Et je sifflais de si bon cœur que les seins des corneilles venaient tournoyer autour de moi, ou bien je tirais de ma truelle des sons argentins comme ceux de l'Angélus. Oh, que l'on respirait aisément là-haut! Le dimanche qui suivit l'achèvement de ce travail, avec le pourboire qui nous avait été octroyé par les fabriciens, en compagnie de quelques gars du même chantier, je lampais copieusement et même plus que de coutume, si bien que par extraordinaire le houblon guilleret et réconfortant m'alourdit le sang et la fantaisie. Et vers le soir, nous allions même nous retirer moroses et comme oppressés par le calme trop grand de cette soirée de paresse, embarrassés de nos membres, oisifs et de notre chair et de nos humeurs, quand un couple d'amoureux de la ville entra dans le cabaret où nous étions attablés. La donzelle fit la coquette et nous provoqua des yeux, tandis que son cavalier nous narguait par son langage pincé, sa jactance, ses fadaises et tous ses grands airs de calicot endimanché. Et lorsqu'ils sortirent, nous quatre de les rattraper sur la route à l'écart du village, et là, sommation à la belle de choisir l'un de nous. Elle prétendit n'avoir voulu que rire, mais nous ne l'entendions pas ainsi. Nous jouons franc jeu, nous autres, ou bien elle se donnerait sous nos yeux à son galant, ce qui nous prouverait la sincérité de ses préférences, ou bien elle lui donnerait un suppléant. À cette proposition raisonnable, son prétendu coq s'enfuit. Elle cria, mordit, et ma foi nous enragea si bien qu'au lieu d'un seul mâle, tous lui passèrent dessus, moi le premier, puis j'aidais à la maintenir pour faciliter la besogne aux autres. La belle, instiguée plus tard par son lymphatique faquin, eut l'injustice et le mauvais goût de se plaindre. Conséquence, tout le beau temps de ma jeunesse en prison, et plus tard, comme pour mon camarade le forgeron, la vie du paria et du suspect, la vie du traîne les routes et du batteur de pavés. Hurrah ! Fit la galerie en se trémoussant, les polissons affriolés claquant des lèvres et s'allongeant de grands coups de coude dans les reins ou de sonores claques sur les fesses. Hurrah ! Oui, ratifia le juge. Quoique je déplore la violence, l'abus de la force, ta faute fut certes vénielle. La femelle vous avait provoqué, en jouant avec le feu, elle se brûla, voilà tout. La mijaurée eut en somme mauvaise grâce à vous livrer aux tribunaux. Au fond, elle ne dut pas vous en vouloir de l'avoir servi un peu plus copieusement que les autres jours. Et toi, l'aiguilleur, conte-nous ton premier écart. Comment as-tu fait pour dérailler jusqu'ici? L'amour me perdit. À 19 ans, j'étais un mélancolique et administratif garde-barrière, posté des heures durant aux confins de la ville, et voyant passer et repasser les trains, condamné à l'isolement, à la vigilance et à l'exactitude. J'étais jeune et j'enviais les couples prenant leur vol vers la campagne, et s'en revenant, pâmé et langoureux de la promenade, de la danse et du reste. D'intervalle en intervalle, j'embouchais ma corne pour signaler l'approche des trains. Il y avait des soirs où j'étais saisi moi-même par l'accent de détresse qui passait dans mon instrument. J'avais l'air parfois d'appeler au secours, ou d'autres fois de me râler d'amour, comme les cerfs qui brament à la vesprée dans les forêts de mon pays des Ardennes. J'aurais voulu fuir, m'en aller, loin de ce morne paysage faubourien, auquel tous les tons cuivreux et font fumer des méchants ciels d'équinoxe. Ma fanfare semblait prêter un deuil et un cilice de plus. Et chaque soir, je cornais plus lamentable. Qui vint à mon secours? Une soubrette trop compatissante qui rôdait souvent par là. Mes yeux bruns et pailletés de cristal, quand elle m'eut dévisagé quelquefois, puis continuèrent-ils la sorcellerie de ma musique? Une nuit, sur deux mots échangés, elle se rendit dans ma logette et ses lèvres, ne se détachant plus les miennes, remplacèrent à celle-ci la saveur vert-de-grisée du cuivre par les baumes et les framboises des baisers. Et comme je défaillais, un coup de clairon m'avertit du passage à niveau voisin. Je n'eus pas le temps d'emboucher l'instrument et de courir fermer la claire-voie. Et le train passa, écrabouillant un vieux couple lamentable. Les chefs ne se contentèrent pas de me chasser, je subis encore la prison. Au sortir de ma captivité, durant laquelle je ne cessais de chérir la cause de mon malheur, je courus à la recherche de la belle. Mais je ne la revis plus jamais, elle disparut sans retour. Puis, pour la rappeler, je ne possédais plus la fanfare, si dolente dans la nuit. Cette fanfare, presque si triste que celle qui vient de vous avertir de l'arrivée de nos nouveaux compagnons. Ils sont nombreux encore, les récits. Tous accidents, méprises, faux départs. Malchance et maladresse, impulsion, foucade équipée de mauvaises têtes, bévues commises par des adolescents, des bailleurs et des effarés, des criminels, candides et débonnaires, coupables sans le savoir. Viciés mais non vicieux, ne commandant rien au code et à la morale et voulant vivre ingénument à leur guise, dans un monde tel qu'ils le sentent et le comprennent. Pauvres moucherons butineurs, folâtrant dans les raies du soleil et se débattant l'instant d'après dans les filets des araignées. Et lorsque le narrateur a fini de parler, court un frisson de commisération, un remous de solidarité. Il faudrait les voir se rengorger tous, altérés de prouesses, avec du défi et de la révolte plein les yeux. Parfois, pour mieux manifester leur enthousiasme, ils nouent une sarabande furieuse, les mains se cherchent et se broient les pieds trépignent, tandis que le juge absout et félicite le prétendu pestiféré. Et toi, l'aristo, comment débuta ton casier judiciaire? En ces termes, Jacques Lavelle interpelle un grand trentenaire aux mains blanches de gras de papier, qui se cache derrière une colonne et qui se flatte d'échapper à cette mise sur la sellette. Au surplus, absorbé dans une méditation exclusive, c'est à peine s'il a entendu les confidences des autres. Pour l'avertir que son tour est arrivé, il faut que ses voisins le secouent. Il balbutie, effaré comme un dormeur qui se réveille. Ensuite, apprenant ce qu'on veut de lui, il se recueille. Eh bien, Swann, vous comprendrez peut-être, et sinon, bon, tant pis. Sa voix rauque s'éclaircit, son émotion tourne en éloquence, il s'exalte à mesure qu'il lève les vannes de son cœur. Oh, moi, je suis l'amoureux maudit, né sous le signe d'Uranie. Si l'amant de la femme passe souvent par des alternatives d'espoir et de découragement, de communion et de méconnaissance, de torture et de volupté, que dire des affres indicibles que je ne cessais de traverser? Comment vous représentez ce vide offert à l'infini de mes postulations, ce fiel versé à mes lèvres altérées? Car moi, je n'eus pas, ou du moins longtemps, je ne crus point le droit de me plaindre devant la généralité des hommes. Enfin, au collège, mes camarades contractèrent tous la vacité et la mélancolie du plus tendre des sentiments. Aux baignades, la nudité frileuse de mes compagnons m'induisait dans de troublantes extases. En dessinant, d'après l'antique, je goûtais les nobles académies masculines. Païen, je ne découvrais pas de vertu sans la rêverie d'en revêtir des harmonieuses formes d'un athlète, d'un héros adolescent ou d'un jeune dieu. J'accordais voluptueusement les rêves et les aspirations de mon âme à l'hymne de la chair gymnique. En même temps, je trouvais coqs et faisans plus beaux que leurs poules, tigres et lions, plus prestigieux que lions et tigresses. Et comme mes maîtres inquiets devant mes naïves professions de goût me prémunissaient paternellement contre les écarts de ma sincérité, je consentis à taire et à dissimuler mes prédilections déréglées. Je tentais même d'en imposer à mes yeux et à mes autres sens. Je me broyais le cœur et la chair à les persuader de leur mépris et de l'aberration de leur sabbatie, mais rien n'y fit. Ils regimbaient à la raison de tout le monde. Et lorsque j'entrais dans la vie sociale, malgré l'opprobre pesant sur ceux de ma race, malgré la tyrannie du préjugé, malgré la presque unanimité des moralistes fulminant l'interdit contre quiconque blasphème la suprématie esthétique de la femme, je m'opiniâtrais, fanatique et farouche, à n'accepter que le témoignage de ma propre conscience. Mon génie me donnait raison contre toutes les consignes et tous les mots d'ordre moraux. Honni, ulcéré dans mes opinions intimes, sans cesse mis au défi, fort d'ailleurs de mon honnêteté absolue, je vins non seulement à mépriser leurs anathèmes, mais encore à m'en enorgueillir. Puis je savais par mes lectures, ces lectures qui étaient ma consolation, mais souvent aussi un achoppement, que des sages, des artistes, des héros, des rois, des papes, voire des dieux, justifiaient et exaltaient même par leur exemple le culte de la beauté mâle. Toutefois, j'aurais résisté aux impulsions de mes instincts physiques, et je me serais renfermé peut-être jusqu'à la mort dans une stoïque admiration pour les parangons de la beauté virile, si un jour, néfaste et béni, toutes mes forces affectives, tendresse, morale et voluptueux désir, ne s'étaient fondues en un amour exclusif et absolu, unique et fatal comme une possession, pour un jeune homme que des fiertés et des admirations communes et surtout l'espoir de s'initier aux arts dans lesquels j'excellais avait amené sur le seuil de ma porte. Oh, je n'oublierai jamais les progrès rapides et les épanchements de notre liaison, ces caressantes paroles d'affectueuse ferveur, tandis que nous nous promenions, son bras passé sous le mien, et ses grands yeux cherchant mes yeux pour y boire mes intimes pensées. Et notre communion devint tellement étroite que son absence me navrait comme un adieu, et que toute journée passée sans lui me durait une semaine de regrets et d'humeur chagrine. Sa présence m'était même devenue indispensable, à ce degré que, farouche, endolori, toujours tenaillé par des angoisses et des pressentiments, je n'osais jamais croire à la stabilité et à la durée de cette conjonction de nos deux tendresses, et que chaque fois qu'il me quittait, je me sentais atrocement déprimé et abattu, comme si je ne devais plus jamais le revoir. Il était le but et le foyer de ma vie, la chaleur de mon corps et la lumière de mon âme. Touché par mes attentions, mon dévouement, ma fidélité, mon exclusif souci de lui être agréable, ma vigilance à écarter toute épine de son chemin, il me répondit par une fraternelle et filiale amitié. Longtemps, je me contentais de son affection plausible. Je me résignais en songeant que, du moins, il n'aimait d'amour aucune créature terrestre. Mais, hélas, il me détrompa. Depuis son enfance, il s'était fiancé à une gentille et rieuse voisine. Avec la confidence de son amour, il m'apportait ainsi la nouvelle de son prochain mariage. Mais pourquoi ne m'a-t-il pas aussi bien troué le cœur d'un coup de couteau, ou que ne me suis-je tué à ses pieds? Alors seulement, en une scène terrible qui le mit en fuite et l'arracha pour jamais à ma sollicitude, je lui découvris les abîmes et les vertiges de ma passion pour toute sa personne. Je lui dis de ces mots qui firent le sang et qui affoleraient les marbres, et je le conjurai de se donner à moi, de rompre son mariage, ou du moins de se partager entre nous. Je lui parlais comme un patient qui demande grâce, comme un supplicié qui crie miséricorde. Je me traînais sur les genoux, je pressais mes mains en les arrosant de larmes. Rien n'y fit. Ah, cette femme, fut-elle la plus aimante de son sexe, ne pourra jamais l'adorer au paroxysme où je l'adorais. Dieu, 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 dire qu'il est possible d'aimer, de se consumer à ce point, sans que ce feu gagne et embrasse celui vers qui tend et s'allonge, désespérément, affamé, altéré, comme des âmes de damnés et au fond de la géhenne, toutes ces flammes, toutes ces voluptueuses et sinistres flammes d'amour. Dire que jamais il ne se rendit à la prière, à l'imploration, muette de tout mon être, qu'il ne se sentit point frémir, tout au moins de pitié amoureuse, en cette explication suprême qui m'amputa de tout ce qui m'attachait à la terre. Et qui viendra parler auprès de cela de fluide, de magnétisme et de télépathie? Il ne se figura jamais ce que j'avais lutté pour ne pas l'effaroucher ou l'obséder, ce que je m'étais contenu et flagellé pour me conduire selon le gré de la masse contemporaine et de ne pas le compromettre aux yeux des vertueux médisants. Depuis mon enfance, je réfrénais mon tempérament, je déguisais ma pensée, je donnais le change à ma famille et à mon entourage sur mes véritables inclinations. Jugez de la fatigue, de l'écœurement et du dégoût que me causait cette comédie, cette perpétuelle dissimulation. Mais c'est seulement le jour où j'aimais pour de bon, que je sondais toute l'étendue de ma détresse et de mon désespoir. Les 5 années que durèrent mes relations lancinantes et balsamiques avec l'être élu, je fus le plus torturé des martyrs. Ah, je voudrais voir combien de mes juges, étant à ma place, eussent résisté à cette projection de leur être vers la chair défendue, eussent repoussé loin de leurs lèvres la coupe que la nature offrait à leur soif exceptionnelle, eussent eu la force d'étouffer le cri de délivrance, de paralyser ce geste de soulagement, de salut et de secours suprême. Eh bien, tant qu'ils furent auprès de moi, tant que de loin en loin nos lèvres se rapprochèrent en un baiser que j'eusse voulu perpétuer, suave et ineffable, et étendre jusqu'à la possession complète, je chérissais cette tentation, cette torture. Je prenais goût à ce supplice comme à une épouvantable gageure. Je me roidissais fièrement, presque radieux, sous l'implacable acharnement des conventions et des règles générales. Désespérément chaste, malgré mes désirs éperdus, je me trouvais légitime. Je n'aurais pas échangé mes postulations contre tous les appétits de ce monde conforme. Je préférais à leurs conjugaux embarquements pour Cythère, à leur langoureuse idylle au pays du tendre, ma passion rouge et noire, mon ascension du volcan sulfureux, mes périples exaspérés sur les lacs asphaltides. J'exultais au milieu des fournaises, j'attisais mes incendies. Souvent, je lui écrivis des lettres brûlantes que je ne lui envoyais pas, mais que je conservais pour qu'il les lût seulement après ma mort. Car j'estimais alors qu'il est de ces déclarations que les trépassés, les expiants seuls ont le droit de formuler par-delà les limites du tombeau. Il pourra lire à présent ses lettres, puisque je n'appartiens déjà plus à la même terre que lui. Et qui sait? Peut-être serviront-elles à l'instruction, voire à l'amusement de son amante, et n'y attacheront-ils, partagés entre la curiosité et le dégoût, que la valeur d'un phénomène pathologique. à cette supposition atroce, il fit entendre un cri qui donna l'idée d'un vaisseau se rompant dans sa poitrine. Puis il fut quelques secondes avant de recouvrer la parole, et lorsqu'il reprit à chaque phrase, il semblait se porter un coup de poignard. À peine a-t-il fui ma présence que je voulus me lancer à sa poursuite. Pour le revoir, je lui eusse demandé pardon de ma trop exigeante tendresse. J'eusse abjuré et rétracté, du moindre parole, ma seule, ma suprême religion. Je songeais aussi à l'assassiner avec sa maîtresse, quitte à me suicider ensuite. Mais non, je l'aimais jusqu'à tous ses sacrifices, jusqu'à tolérer son bonheur auprès d'une autre créature, jusqu'à survivre à son abandon, jusqu'à accepter une existence privée, désormais de toute effusion, et durant laquelle il ne me resterait plus qu'à repaître douloureusement mon cœur des mirages et des leurres de notre intimité défunte. Aussi, au moment où je m'emparais du revolver, je me représentais une larme, un regard de nos beaux yeux, un de ces cajoleurs et mutins sourires d'autrefois. Et cette évocation me navra à tel point que, laissant choir l'instrument homicide, je m'effondrai dans un fauteuil dont je me battis sur le plancher en proie à une crise de nerfs voisine de l'épilepsie, et ne cessant d'appeler l'absent avec des rages exaspérées par l'horrible certitude de l'irréparable. Pour oublier, je recourus au voyage, je parcourus des océans, j'accompagnais le rude marin du nord jusqu'aux pêcheries boréales. Le plus souvent, vautré au fond de la barque, l'idée fixe me rongeait au plus fort des tempêtes, le fracas des éléments et les blasphèmes ou les prières de mes compagnons ne parvenaient à étouffer le timbre de la voix aimée, de la voix lointaine, qui ne cessait de vibrer à mes oreilles, de me chanter les serments et les confidences de jadis. Pour oublier aussi, je me mis à boire, j'ivrognais avec la crapule, vin remède, miroir maléfique, l'alcool ne me réfléchissait que plus désespérément, adorable, les grâces et les perfections de l'absent. Alors je songeais à satisfaire brutalement ma chair. Ma passion rebutée se dédommagerait en immédiate débauche. Il me fallait calmer à toute force, sang de lave, cette sève leurrée et toujours trahie, hélas, à laquelle je ne pouvais offrir d'assouvissement sans attenter aux mœurs de mes dissemblables. Ah, de cet amour pur entre tous, de ce sacrifice de mon être à un autre être, de cette immolation perpétuelle de ma conscience et de mon caractère à cet enfant de prédilection, je sortais réprouvé, ivre de terribles revanches, friand de représailles érotiques. Ah, je me moquais bien des sages et des justes. Crime contre nature, disait-il. Mais contre quelle nature? Ma vie entière n'avait-elle pas été un crime contre ma nature à moi? Un matin de Mardi Gras, anniversaire de notre première rencontre, je me réveillais en m'écriant avec une rage sardonique. Ah, c'est carnaval! Si je me déguisais en homme normal, si je faisais la cour aux femmes, puisque c'est aujourd'hui carnaval, me reconnaîtrais peut-être moi plus moi-même. Ce que je ris à cette pensée, jamais je ne ris autant de ma vie. Ah, oh, ce fou rire me reprend. Ma gaieté fut même telle que mon courage et ma résolution grandirent, jusqu'à m'entraîner vers un acte téméraire. J'étais décidé à en finir, j'obéirais à ma vocation. Le soir même, j'avisai dans un bal à deux sous un jeune éreinté de la barrière de Jolie Mine, bien découplé, vêtu de velours fauve. Un de ces pauvres diables de voyous, déflorés depuis longtemps par les promiscuités des coucheries en commun, un de ces vicieux candides qui ne songent pas à mal en gredinant dans les galetas, sur les pelouses et les bancs des parcs suburbains et au seuil noir des impasses borgnes. À l'écart, guidé par ce pilotin sans vergogne, j'abordais enfin au Havre défendu. Je goûtais pour la première fois auprès de ce samaritain d'amour le cuisant et questionnaire Bonheur de la détresse, béatifiante des majeurs naufrages. Au réveil de cette crise, je n'étais plus qu'une épave. Et à présent, bon, jetez-moi la pierre, accablez-moi de crachats. Votre haine provient peut-être d'une inconsciente envie. Et surtout, n'allez pas me plaindre. Faites-moi grâce de votre pitié, car je vis le monde mal en sa puissante splendeur. J'appréciais plus profondément ces prestiges que ne pourraient le faire vos femelles. Je scrutais mon sexe par les meilleurs des yeux, les yeux pathétiques des Grecs et des Renaissants, les yeux de Platon, de Michel-Ange et de Shakespeare. Ah, la publique nature eut pour moi des charmes secrets, des frissons nouveaux, des coups de foudre que la masse de ses tributaires ne connaîtra jamais. Et qu'importe même mon amour malheureux, puisque c'est à la profondeur de la vallée des larmes que se mesurent les altitudes de l'amour. Oui, je m'enorgueillis à présent de mon supplice, car celui que j'aimais, jamais il n'aimera, jamais il ne sera aimé ainsi, je le jure. Oui, mon amour lui fut plus sublime que toutes les passions consacrées. Ah, aimer au sein des pires opprobres, aimé presque seul, et pour ainsi dire, contre tous. Il se tut. Sa voix déchirait les cœurs et énervait les écoutants, ainsi que des bouffées de rage, tour à tour rafraîchissantes et délétères, humides de vapeurs électriques ou ensoleillées de blafards crépuscules. Et à la fin, elle s'était élevée, les cordes tendues à se briser, comme pour dénoncer au trône du Créateur les erreurs de sa providence. Le silence, communiant et apitoyé de tous ces transgresseurs, se résulte en un murmure de compassion, spécieux et discret à l'égal d'une caresse des branches au nid qu'elles abritent. Avance chatouilleuse des feuilles balsamiques au plumage douillet. On eût entendu sourdre des larmes et même se contracter les gorges, avalant la salive, reprise aux lèvres altérées de baisers. Vaincu par ces ambiances rédemptrices, le plus misérable d'entre ces exceptionnels se défendit et tenda court à son émotion. Presque hiératique, transfiguré, Jacques Lavaine, prenant au sérieux son rôle d'interprète des consciences, lui prodiguait l'onction de ses paroles. Tu aimas et tu fus digne d'amour. En obéissant aux impulsions de ta nature, tu ne barreras pourtant point le chemin au courant passionnel de ton proche. Tu n'abusas personne. C'est plutôt le monde et la fatalité qui ont pesé sur ta bonne volonté. Tu fus loyal, généreux et droit, n'usant pour te faire aimer en toute plénitude que de la magie et des sortilèges de la bonté absolue et de l'esprit sans malice. Oui, il a le droit d'aimer qui bon lui semble, celui qui se livre avec cette sublime ardeur. Donc, sois des nôtres, demeure sans crainte au milieu de nous, et peut-être rencontreras-tu un jour dans nos refuges cet amour réciproque qui t'aura été refusé toute la vie. Tous s'empressaient autour de l'uraniste, quand un dernier venu, le seul qui n'eût pas encore parlé, s'écria. Ah non, par exemple, ah non, jamais je ne pousserai l'esprit de tolérance jusqu'à frayer avec ce saligot. Pouah, il me dégoûte. Et cependant, je ne suis pas prude. Ce ne sont pas les préjugés qui m'étouffent. Il n'est même point de luxure que je l'ai pratiqué. J'ai usé et même abusé de toutes choses. Par la nature de mon industrie, je disposais sans cesse des plus hautes intelligences, des meilleurs caractères et des plus friandes beautés. J'ai fait profit et litière de tout ce que respectent les imbéciles. Oh, je ne suis pas homme de sentiment, moi. Je ne me forge point de chimères et ne construis point de romans que ce piteux et lamentable fou. Ce que je voulais, je le réalisais par l'argent, avec l'or tout-puissant. J'achetais les consciences, les talents et les pudeurs. Je pratiquais l'usure en cachette. Des débiteurs réduits à cuillas se tuèrent. Je fis mettre le grappin, et rondement, sur les deniers qu'ils laissaient à leurs veuves et à leurs orphelins. J'aurais fait vendre jusqu'à leur suaire, jusqu'au clou de leur cercueil. Ce que l'on devient philosophe, ce que l'on apprend à mépriser les mortels. Jouir, tout est là, à tout prix, coûte que coûte, pour sauver leurs maris, leurs frères, leurs amants, les femmes, les sœurs, les fiancés, se donnaient à moi. Menacés de faillite et de déshonneur public, des parents s'affolèrent jusqu'à me céder leurs fillettes. Je leur mettais le marché à la main et jamais je ne reculais. Lorsque j'avais jeté mon dévolu sur une proie, je la forçais dans ses derniers retranchements. Je l'avais serré, mettant aux prises la pudeur et la faim. L'honneur intime et le scandale public. Avez-vous vu dans les ménageries les pigeons livrés aux serpents? Ainsi la faim croquait et affolait la pitoyable pudeur. Oui, ou mieux, c'est moi qui représentais la faim, le fléau, l'inéluctable voracité, et je dévorais les timides oiselles, je croquais, je souillais les vierges éplorées. Sans l'indiscrétion d'un employé, sans une maladresse, la seule que je commis dans mon existence, je recommencerai une nouvelle série de vols et de viols clandestins. Figurez-vous que c'est pour un faux, un simple petit faux, une pégadille, comparé à tout le reste, que je me fis pincer et que la justice interrompit mes profitables expériences du caractère humain. Ah ah, allez, admirez-moi, dites. Suis-je pas votre maître à tous? De l'amour, il n'en faut jamais, de l'amitié encore moins. Soyez riches, soyez forts, haïssez les hommes et méprisez les femmes. Et en parlant, il se rengorgeait, il se frappait à la poitrine de ses poings velus, il riait d'un rire diabolique, faisant rouler ses paroles avec la forfanterie et la jactance d'un cabotin fanfaron, convaincu de conquérir le prestige et la popularité des lâches et des vils, qui compose la majorité des hommes. Mais il ne se doutait point, tant il se grisait et s'émoustillait au souvenir de ses turpitudes, de la honteuse réprobation qui montait contre lui dans cette assemblée de scélérats et en cette pouillerie de malchanceux. Ceux qui étaient assis autour du poêle s'étaient redressés et reculés instinctivement. Le cercle s'élargissait de plus en plus autour du père horreur, comme s'élargiraient les mailles d'un filet dans lequel on tenterait d'emprisonner l'effroi. Le feu s'était éteint, les pipes ne grésillaient plus, et si on avait pu discerner les visages, on aurait constaté que, vieux ou jeunes, accusaient une répugnance, une aversion, une horreur grandissante. Cette odeur de geôle, cette odeur de bouc et de miséreux, ce fleur des bosquets infectés, festés de hannetons, saturait depuis longtemps ce chauffeur au point d'avoir enduit les plates des miasmes et des virus de toutes les influences humaines. Mais c'est à présent que ces grouilleux, que cette moire cuvée s'apercevait pour la première fois de la trop grande fermentation et aurait voulu s'échapper du pressoir. Pour la première fois, et à mesure que le faussaire s'étendait sur son ignominie, ils avaient soif d'air respirable, ils se bouchaient les marines, ils suffoquaient, et dans leur gorge un seul mot sifflait « L'infâme !» Eux, remplis d'indulgence pour tous les écarts, pour les violences sanguinaires, les trouées et les incendies des crimes passionnels, puisant leur origine dans la générosité, les fluides affectifs, les nostalgies des communions, eux qui avaient absous et qui, bien plus, seraient prêts à partager les rapprochements illicites, comme cette vierge chrétienne qui, passive, se donna un jour à un désespéré en se fermant les yeux pour lui en entrouvrir les portes, se détournaient avec horreur de ce lâche vicieux, de ce pressureur de la chair enfantine et timide, de ce minotaure sournois. Il leur incarnait l'affreuse omnipotence de l'argent, les maléfices et les envoûtements du métal maudit, drainé et manipulé par la bourgeoisie. Et tout à coup, il s'arrêta de pérorer. Dans l'assemblée venait de se produire un mouvement qui l'édifiait enfin sur la vertu de son prêche. La consternation de ces malheureux criminels, ingénus ou émotionnels, devant les frigides scélératesses de ce Hampshire, avaient-elles dégénéré en panique? Oubliées de leur captivité, ne songeant pas que les gardiens de Bouvigny ne voulaient les entendre, plongés qu'ils étaient, ceux-ci assez loin du chauffoir, dans des libations et des parties de cartes à la cantine, ils se ruèrent en masse vers la porte qu'ils ébranlaient à coups de pied, s'arrachant les ongles à vouloir écarter les battants, comme si l'incendie s'était allumé subitement dans la salle et que les flammes courussent à leurs trousses. Cette véhémente lave humaine allait-elle crevasser, faire sauter le cratère qui l'emprisonnait? Leur illusion ne dura point. Ne pouvant gagner le large, mettre de l'air respirable entre cet empoisonneur et leur pauvre troupeau de brebis galeuses, ils se retournèrent contre l'exécrable, résolus à l'exécuter sur le champ, à l'empêcher de respirer plus longtemps dans leur milieu. Ce conventicule de flétris et de piloriers fut secoué comme dans une trombe de représailles. Ils le cherchaient en poussant des cris de mort. Mains en avant, en tâtant les parois, se reconnaissant les uns les autres, rampant sur les genoux, se traînant sur le ventre, ils s'évertuaient à le rejoindre et à le dénicher pour le broyer sur leurs talons, le pétrir sous leurs poings, pour le lacérer à coups de dents et de griffes, pour le noyer sous les crachats et l'ordure. On aurait dit les colamaillards de la mort. Seul Jacques Lavaine tentait de les calmer et prêchait la clémence. « Ah, c'est de juge et de justice, disait-il. Je ne condamnerai même pas celui, et surtout point de bourreau. Ne touchons à la vie de personne. La vie est sacrée. N'en privez point le plus misérable. Le mal n'est que l'apparence, le crime le résultat des lois. Cet homme est son propre juge, son propre bourreau. Sa conscience, son destin même le poursuit puni. Où ne régna jamais l'amour, sévit le pire des froids et des vides. La glace, les ténèbres de son cœur composent son capital supplice et ne tarderont pas à le supprimer, à l'ensevelir dans l'oubli. » Le médiateur exhortait vainement cette meute exaspérée, et sans doute est-elle finie par atteindre le misérable lorsque des clés tournoyèrent dans les portes. La chiourme accourait, enfin, pour s'enquérir de la cause de cette tourmente et pour conduire le troupeau du chauffoir à la chambrée. À l'aspect des gardiens, cette chasse plus sinistre que celle qui tempête dans les balades de Bürger s'arrêta net. Ce fut l'effet d'un chant de coq ou d'un rayon d'aurore dans un sabbat ou une danse macabre. En un instant, les hommes se trouvèrent sur leurs pieds, se mirent en rang et prirent la pose d'ordonnance. On les compta, il en manquait un. On fit l'appel, l'usurier ne répondit pas. Alors les gardiens, dirigeant le faisceau lumineux de leurs lanternes dans les divers recoins du chauffoir, avisèrent, derrière un pilier, un corps gisant, pelotonné, ou plutôt contracté, dans une attitude simiesque. Les porte-clés s'approchèrent de cette masse, reconnurent l'usurier, le numéro 7260, et comme il ne bougeait plus, ils le portèrent au dehors. Les autres prisonniers s'efforçaient contre la paroi, ne se souciant pas de toucher à ce cadavre. Le corps ne portait aucune trace de violence, ni contusion, ni plaie. Et quand les gardiens parvinrent à écarter les doigts crispés comme ceux d'un chiragre, qu'ils avaient appliqués contre ses yeux, ils reculèrent devant l'indicible expression de terreur épandue sur le visage déjà violâtre, expression ajoutante au caractère significatif du recroquevillement désespéré du tronc et des membres. L'épouvante l'avait tué, ou peut-être avait-il été foudroyé par le premier éclair du remords?